Il y a un truc dont on parle jamais, et c'est de nos côtés sombres. Vous savez, les côtés pas très reluisants de notre caractère. Et finalement, c'est un élément qui est extrêmement important. Et pour en parler, je reçois deux personnes différentes. Jerry Hyde, en anglais, et donc c'est un autre épisode. Là, vous êtes sur l'épisode en français. Et Mai Hua, qui est son amie, et avec laquelle on a enregistré en français. Vous verrez, si vous parlez bien anglais, que l'épisode avec Jerry, qui est un thérapeute, est beaucoup plus analytique, et l'épisode avec Mai en français est beaucoup plus personnel. Donc je vous invite à écouter les deux épisodes si vous le pouvez. Autrement, si vous ne parlez que français, écoutez l'épisode avec Mai qui est particulièrement prenant. On vous donnera des conseils aussi. Je m'appelle Grégory, vous êtes sur Volant. Allez Volant, c'est parti. Bonjour Mai.
Bonjour Greg. Bonjour à tous.
Bonjour à toutes et à tous.
À toutes et à tous.
Alors, c'est un épisode un peu particulier parce que j'ai enregistré avec Jerry, donc ton mec, il y a plusieurs mois quand même.
Il y a presque un an même. Hein.
C'est ça. Un épisode sur les dark sides, sur les ombres. Et on a essayé de faire une traduction pour le doubler. Et en fait, on n'a jamais réussi à le faire. Et du coup, on va réenregistrer en français un autre épisode qui parle du même sujet, mais qui n'est pas une traduction. Donc en fait, pour ceux qui écoutent, vous avez l'épisode en anglais avec Jerry, si vous parlez suffisamment bien anglais. Et puis, on va faire un épisode avec Mai.
Hello.
Hi.
Hi. Hi. How are you?
Alors, donc Jerry, il a écrit un bouquin qui s'appelle The Book of Sin.
Ouais.
Donc le livre des péchés, on va dire.
Voilà.
Traduit de manière littérale. Pourquoi, selon toi, c'est important de parler des ombres ou des dark sides? C'est pas un sujet qu'on parle. Pardon, je te coupe tout de suite, mais c'est pas un sujet parce que j'avais pas fini ma question, mais en fait c'est pas un sujet. Non, c'est moi. Mais parce que c'est pas un sujet dont on parle beaucoup en France, en fait. Je crois.
Oui, c'est un sujet dont on parle pas du tout.
C'est ça.
Que j'ai appris à appréhender en lisant les premiers bouquins. Enfin, un autre bouquin de Jerry juste avant, qui s'appelle Play from Your Fucking Heart. Et en fait, ça a fait une étincelle dans ma psyché et dans mon existence. Et je me suis dit, ah mais oui, mais en fait, on n'en parle pas parce que c'est tabou, parce qu'on est dans une société judéo-chrétienne où tout le monde doit être bien, bien comme il faut, sinon tu vas frire aux enfers. et ça fait très peur. Et c'est une partie, en fait, humaine qui fait partie de chacun d'entre nous, quoi. Donc, en fait, ne pas aller explorer ça, c'est se couper d'une partie de soi. Et ça peut devenir très dangereux.
Alors, avant de dire de se couper de ça, hein,
ouais.
Avec des gros guillemets,
ouais.
C'est quoi le ça? C'est quoi ces dark sides ou ces ombres précisément?
Bah, c'est justement des parts de l'inconscient qui remontent très peu au conscient, voilà, qui sont dans l'ombre. Ou qui peuvent faire ombre aussi, sont des parties qui sont beaucoup plus animales, beaucoup plus brutales, beaucoup moins jolies, et qui évidemment socialement sont pas du tout acceptables. Donc c'est un mélange de ce avec quoi on est. Je pense qu'on est avec de la peur, de la colère, sont des fonctionnalités qu'on a tous, mais qui peuvent se développer et qui peuvent se développer énormément si on ne va jamais les investir, si on n'a pas le droit de les exprimer et donc voilà.
C'est en fait donc juste pour les gens qui écoutent, c'est toute la théorie de Jung.
Oui.
Et il dit, il y a cette phrase, donc c'est Jerry qui dit Do you want to be a good person or do you want to be a whole person?
Donc, ouais.
Est-ce que tu veux être une bonne personne ou est-ce que tu veux être une personne entière?
Voilà.
Ouais. Parce qu'on veut tous être, a priori, des bonnes personnes. C'est tout ce qu'on montre sur Instagram, le côté bright, shiny, enfin, pardon de faire des anglicismes, mais un peu lumineux, ouais. Je suis bien, ma vie est géniale, ouais. J'avais bien, tout va bien, c'est Juvamine et tout.
Ouais.
Voilà. Et en fait, la réalité, évidemment, c'est évidemment pas ça pour personne. Bon, ouais, il faut ouais. être un peu débile pour croire que c'est ouais. la réalité. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est de voir que si tu ne te contrains que dans ça, et souvent on essaye ouais. de faire ça, et c'est pour ça qu'on fait autant de bouquins de développement personnel pour mmh. dire mais comment je peux être une meilleure personne, mmh. Ouais. Et mettre des power quotes sur sur Instagram.
Ouais.
Mais finalement, quand tu veux être une personne entière.
Ouais.
Bah, tu vas chercher ailleurs et en particulier dans tes ouais, ombres.
Ouais, exactement. Alors, je sais pas si la bonne traduction c'est entière ou complète.
Mmh.
Parce qu'en fait, ces ombres-là sont des éléments qui font partie de toi. Mais si tu vas les investir et les explorer, tu vas compléter ta personne parce que tu as complété ton expérience humaine. Donc il s'agit pas de dire que j'adore la partie de moi qui ment, manipule et est super égoïste. C'est pas ça, mais c'est voilà, j'ai fait mal à quelqu'un en étant égoïste. Qu'est-ce qui a mené à ça? Et ça devient une exploration. Et ça devient une exploration de ta propre vie, quoi. Donc d'une partie de toi-même et c'est pas en lisant des power quotes que tu vas que tu vas le faire, ça demande du travail et des expériences aussi et pour le faire ben effectivement il faut beaucoup s'aimer parce que il faut cesser de te juger sans cesse quoi. Et donc encore une fois, c'est pas de dire c'est oui je m'aime même si je mens etc. Mais c'est est-ce que je m'aime suffisamment pour être capable d'explorer pourquoi je mens ou pourquoi je me drogue ou pourquoi je suis en colère etc etc. Donc voilà.
C'est marrant ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'ai acheté un bouquin sur les ombres.
Ouais.
Il y a des années, je me souviens même plus, je pense ouais. que c'était il y a 7-8 ans. Ouais. Et en fait, j'avais commencé, je m'étais dit, rien. En fait, ouais, j'avais fermé assez ouais. rapidement.
Mmh.
Et en fait, je l'ai relu là, début 2019, et ça m'a hyper touché. Du coup, j'en ai acheté plein pour les offrir à plein de gens. Et c'est marrant comme parfois, il faut une forme de maturité.
Bien sûr. Ouais.
Pour
ouais.
aller explorer cette partie-là, parce que sinon, on peut d'abord être dans l'ignorance, c'est-à-dire ne même pas savoir qu'on a ces dark side. Ah, et après,
sûr.
La deuxième étape, évidemment, c'est de savoir, mais en même temps, de dire non, mais moi, tout va bien.
Ouais.
Et puis la troisième, de se rendre compte que finalement...
Je vais très, très bien. Ben oui, ça, ce sont des étapes. Et c'est pour ça qu'il faut le prendre sans jugement et avec beaucoup de bienveillance. Ce sont des étapes, en fait, c'est un cheminement. Et... il y a une partie d'un développement naturel et puis il y a une partie culturelle qui fait que on n'a pas trop droit à ces explorations donc on les fait plus tardivement. J'ai lu aussi un bouquin sur la part d'ombre et en anglais qui s'appelle Own Your Own Shadow.
Mmh.
Donc, fais en sorte que ta part d'ombre t'appartienne, soit une partie de toi. Et il dit, ben, le moment où l'ombre émerge, c'est quand t'as 40 ans. Donc la fameuse crise de la quarantaine, c'est le moment où tout ce que tu as construit jusque-là pour être acceptable sociétalement, bah, en fait, il y a ta pardon qui va venir demander son lot. Parce que tout ce que tu as construit d'un point de vue, on va dire, shiny ou lumineux,
mmh.
en fait, nourrit, sans que tu le saches, toute ta part d'ombre à part égale, sauf que tu n'arrives pas à l'exprimer ou tu ne sais pas l'exprimer ou tu ne veux pas l'avoir. Et donc, il y a un moment donné où elle va faire surface. Et c'est en général vers 40 ans.
Ça, donc, toi, tu as fait ce travail ou pas?
Ouais, ouais, c'était super. Mais tu vois, pour faire référence justement à l'épisode que tu as enregistré avec Jerry, ce qu'il disait, c'est que quand il a commencé, lui, dans le monde de la thérapie il y a 25 ans, tous les messages étaient très new age et très love yourself, you are wonderful. Et effectivement, quand tu commences un cheminement, tu as besoin d'entendre ça et de t'approprier ces messages-là parce que souvent, ton estime de toi et tes blocages et tes traumas aussi font qu'il faut rebooster un petit peu la machine pour pouvoir amorcer un travail et un cheminement. Mais il y a un autre moment où en fait, c'est pas du tout suffisant. Et tu te rends compte que c'est pas suffisant parce qu'il y a des blocages dans ta vie, dans ton au niveau pro, mais surtout au niveau relationnel, où tu vas devoir détruire toute une partie de ces messages-là pour aller beaucoup plus profondément dans les abysses, quoi.
C'est sympa.
Ouais, c'est super. Mais en même temps, je crois que c'est Joseph Campbell qui disait ça. Je vais le dire en anglais, mais c'est It's by going into the abyss that you find the treasure of life. Et c'est exactement ça qui s'est passé dans mon cas, en tout cas.
Donc c'est dans, même si en allant dans les abysses. Ah non, je fais de la traduction du coup.
Voilà, c'est en allant dans les abysses qu'on découvre le trésor de la vie. Et effectivement, pour moi, c'est ce qui s'est révélé être mon expérience, même si voilà, j'ai que 42 ans et que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre.
Inch'Allah. Mais
disons que en allant voir, en acceptant que j'étais très en colère, en étant en contact avec ça, en allant explorer pourquoi, en remontant le fil d'une souffrance, j'ai découvert des capacités dont j'étais totalement, pour lesquelles j'étais totalement ignorante aussi, et finalement on développe des super pouvoirs aussi là-dedans. Donc,
voilà. Et quelque part, comme on parle parfois de sorcières, de puissance féminine, ouais, etc., la puissance, elle est aussi dans la maîtrise de ça. En fait, il y a une phrase qu'utilise Jerry dans le podcast, je me souviens, enfin une image, c'est pas son image à lui, mais qui dit, en fait, tu as un vieux sage qui dit à un enfant, en fait, tu as deux loups, un loup blanc, un loup noir, mais en fait, quand tu nourris que le loup blanc, finalement, tu nourris beaucoup, beaucoup de loup noir sans même t'en rendre compte. Il y a une grosse part d'inconscience que tu disais au tout début. Donc, pour les personnes qui nous écoutent, c'est de comprendre cette part-là. Est-ce que tu as des recommandations sur le processus? Toi, comment ça s'est passé, ce processus? Comment ça vient si, par exemple, j'ai 30 ans et j'ai envie d'y aller plutôt que d'attendre ma quarantaine?
En fait, aujourd'hui, il y a plein de techniques. Déjà, il y a des bonnes lectures, donc ça, c'est bien. Mais je pense que c'est quelque chose qui est expérientiel. Être en contact avec ces choses-là, c'est être en contact avec ton corps, avec tes émotions. Donc moi, pour ma part, ça a été un cheminement via ça. Donc, j'ai travaillé avec un thérapeute corporel. Moi, j'avais des sessions. Donc, en fait, pour la faire courte, c'est une technique où tu es allongé, tu as des techniques de respiration, de toucher et de contraction et de relaxation de certaines parties du corps. Et en fait, tu cherches où sont logées tes émotions, et en fait tu les relâches, ils t'aident à les relâcher. Et moi j'avais des séances, mais c'était l'exorciste. Enfin, tu vois, je criais, je tapais, j'étais très 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 en colère. Et en fait, être en contact avec ça, c'est pas reluisant, quoi. C'est pas reluisant. Et bon, moi pour le coup aussi, je suis maman. Donc il y avait une vraie urgence à comprendre quels étaient les boutons sur lesquels appuyer ou ne pas appuyer, ce que ça déclenchait, etc. Parce que avec une connaissance aussi faible de moi-même, j'étais pas capable d'être un bon parent, quoi. Donc donc pour moi, il y avait une urgence à aller enquêter là-dedans. Et puis il faut dire que là-dedans, dans cette part animale, il y a toute une partie créative qui est géniale. Génial, génial, génial. Et on peut pas être une exploration artistique si on n'est pas en contact avec ça. Ça veut pas dire qu'il faut être écorché vif et pas du tout. Enfin, c'est pas trop moi, par exemple.
Non.
mais en tout cas, ouais, il y a une exploration à faire.
Mais cela dit, un artiste, j'ai l'association, peut-être que je me trompe, je fais une énorme généralité, mais enfin, c'est pas très grave. C'est quelqu'un qui a une forme d'hypersensibilité aussi.
Oui, alors il y a cette forme d'hypersensibilité, d'une connexion à quelque chose. Alors, il y en a qui vont dire c'est de l'intuition, il y en a qui vont dire c'est les émotions, il y en a qui vont dire c'est le monde de l'invisible, peu importe, mais c'est, oui, t'es en contact avec quelque chose, en tout cas, qui n'est pas mental. Et la part d'ombre, c'est pas du tout mental. Donc, il y a beaucoup de gens qui peuvent aller voir des psys pendant 15 ans et qui vont jamais, en fait, aller voir leur part d'ombre, parce qu'ils vont être eux-mêmes, ils vont entretenir un confort dans leur cheminement. Le thérapeute va entretenir un confort parce qu'en fait, il a un client qui revient toutes les semaines. Et du coup, ils vont jamais aller s'attaquer au cœur du schminglick, quoi. Donc, il faut avoir une, faut y aller, quoi. Il faut avoir une initiative à un moment donné, et juste reconnaître que c'est quelque chose d'universel. Donc, pareil, je fais référence à l'épisode que vous avez enregistré avec Jerry. Lorsque les gens sont passionnés par Star Wars. Tout le monde veut être Luke Skywalker, mais en fait, tout le monde est Darth Vader, quoi. Mmh. Donc, c'est juste deux parts de nous-mêmes qu'on reconnaît dans ces deux personnages-là, qui sont séparés en deux personnages, mais en vérité, c'est deux parts de notre psyché.
Ouais, c'est sans doute ce qui a fait aussi le succès de Game of Thrones,
ouais,
peut-être.
Ouais. Mmh. Bah, en fait, ce qui se passe, c'est que si tu ne reconnais pas ta part d'ombre, tu vas la projeter. Et si tu la projettes, bah, soit tu vas la projeter et tu vas, sans le vouloir, développer des situations conflictuelles, etc. Soit, au contraire, tu vas aller au cinéma ou regarder des séries qui vont développer,
ou nourrir, ou apaiser,
ça dépend, ta part de violence que tu peux pas regarder en face. Donc, tu regardes la télé, les informations, et là où ça devient dangereux, c'est si ça devient un parti politique.
Ouais, bien sûr.
Voilà. Et là, ça devient très, très dangereux. Si tu comprends pas ta douleur, ta souffrance, ton sentiment de trahison, etc., en fait, tu vas projeter ça sur quelque chose d'extérieur et tu vas créer des choses qui peuvent être potentiellement très dangereuses.
Donc toi, dans ton processus, c'est lecture.
Ouais, c'est lecture, expérience.
Psychologie ouais. Corporelle.
C'est ça, ouais.
Mmh. Et après ?
Ben, tu veux qu'on en parle ?
Non. Mais oui, parlons-en.
Moi, j'ai fait des expériences en conscience altérée, notamment avec l'ayahuasca. Mmh. Donc, pour moi, j'avais des intentions qui étaient très fortes. Les gens qui font ça, on leur demande souvent de préparer des intentions et ça peut être... Enfin, il y a tout et n'importe quoi. Mmh. Qu'est-ce que je fais sur cette terre? Quelle est ma mission de vie? J'ai tel ou tel trauma, je sais que je dois faire ça, mais j'y arrive pas. J'ai peur de tout, je suis en colère. Voilà, madré, venez m'aider. Mmh. Et je pense que ça a été une expérience spirituelle pour moi très très forte parce que ça m'a permis de me confronter à ma peur et ma plus grande peur c'était de lâcher prise. Mmh. Et je pense que pour moi la plus grosse expérience là-dedans c'était de lâcher prise et c'est quelque chose que tu peux pas faire avec un thérapeute, que tu peux pas faire avec une approche mentale quoi. Mmh.
C'est dans le corps forcément.
C'est dans le corps, ouais. Mmh. C'est dans le corps et c'est dans une partie de ta psyché qui est justement très très profonde, qui est vraiment l'ombre de l'ombre de l'ombre. Mmh. Et ça fait très peur. Ça fait très peur. ça fait d'autant plus peur que notre conditionnement culturel fait que tout ce qui est autour du lâcher prise c'est quand même compliqué. Les gens doivent être dans le contrôle.
Hyper policé dans nos cultures.
Ouais, c'est super policé. On doit être des bonnes personnes, mais voilà. Donc être complète pour moi, c'était faire ce type d'expérience-là, me confronter à mes peurs et me confronter aussi aux messages qu'il y avait derrière, qui n'étaient pas nécessairement des messages sympas, quoi. Donc parfois, c'est tu peux être confronté à des messages, je sais pas, qu'on pourrait qualifier de durs. Faut les entendre, faut les accueillir, il faut travailler dessus, quoi.
Et tu sais ce que ça a ouvert chez toi ? Enfin.
Ouais.
Ouais.
C'était quoi qu'on en parle ? Pour moi...
C'est juste que ça a ouvert chez moi.
Oui. Je pense que pour moi, ça a été une expérience... quand tu es confronté à une peur très très vive et que tu la traverses, ça te donne une confiance en toi de maboule, quoi. Mmh, parce que tu reconnais les moments ensuite dans ta vie où tu as peur et tu sais en fait que tu peux traverser la peur. Donc tu sais qu'elle va plus être la condition qui va faire que tu fais ou que tu ne fais pas quelque chose. Donc ça, c'est un enseignement incroyable. Et puis après, je pense que c'est vraiment une expérience pour moi qui nous relie à quelque chose d'humainement sacré, sans être dans une expérience religieuse. Et moi, je suis pas du tout quelqu'un de religieuse. Mais ce truc sacré, cette reliance, ça, c'était un truc vraiment incroyable. Donc, pour moi, ça a été une expérience d'amour, très profonde.
Et justement, par rapport à ce que tu disais au tout début, qui était de s'aimer soi-même, ça peut sembler un peu bateau de dire ça, comme dire, et moi c'est une question que je pose parfois à des amis, est-ce que tu penses que t'es vraiment une opportunité ? Et bêtement, on va tous répondre oui, mais en fait profondément, on est quand même son plus difficile juge, donc c'est pas si simple que ça de répondre et d'en être convaincu en fait. Et peut-être que ces expériences-là sont, enfin peut-être pas l'ayahuasca nécessairement, mais en tout cas de travailler dessus, que ce soit à travers des bouquins ou autre, c'est une étape qui est nécessaire en fait.
Ah mais bien sûr, c'est une étape qui est nécessaire parce qu'en fait, tous ces trucs, ces power quotes, c'est ça, que tu vois imprimés sur des t-shirts, ça n'a pas de sens si t'as pas une expérience en fait qui précède le mot. Et toutes ces expériences-là qui sont vraiment des expériences de énergétiques, mais qui sont réelles, qui sont juste invisibles, mais qui sont réelles, ou même factuelles, je dirais, ça te fait cheminer sur un mot qui n'a plus du tout la même valeur. Toi, tu vois, c'est avoir un bouquin que tu vas pas lire pendant 10 ans et puis tout d'un coup, ça te parle. Donc, il y a des rencontres et des temps, en fait, où ton chemin, il se déroule. Et puis, à un moment donné, une expérience a une vérité. Et du coup, le mot qu'on met dessus a aussi une vérité, quoi. Mais souvent, tous ces mots sont creux parce qu'on ne sait pas ce que ça veut dire.
Donc, arrêtez de mettre des phrases comme ça, idiotes, sur Instagram.
Non, parce que je pense que ça a aussi une valeur. Et finalement...
je plaisante.
Quand je pense que les gens ont besoin de force, ils ont besoin d'amour. Il ne faut juste pas qu'ils pensent que les réseaux sociaux, c'est la vraie vie, quoi. C'est tout, ça. Mais je... Voilà.
Et j'ai la sensation, peut-être, tu me contrediras, je ne sais rien, que justement, je vois de plus en plus d'Instagrammeuses, principalement des femmes, qui donnent accès, qui ont accès, et qui du coup partagent de manière beaucoup plus ouverte. Alors, c'est sûr, elles ont vieilli, et c'est peut-être pour ça aussi qu'elles ont accès, mais t'as pas la sensation qu'il y a toute une vague comme ça, alors sur Instagram, mais ça pourrait être n'importe quel réseau social, c'est juste qu'Instagram, c'est en ce moment, c'est un peu le réseau social pour les vieux, enfin pour nous, pour les 25-35.
Pour les yeux,
pour nous.
Qui ça, parle en verlan. Tu sais.
t'as pas la sensation que c'est en train de, justement, d'arriver, que du coup, ça libère un peu la parole, parce que on est tous plus ou moins sujettes à ces parties un peu sombres de nous-mêmes. Simplement, on se les avoue pas à nous-mêmes et on va certainement pas les avouer aux autres. Mais en voyant d'autres finalement le faire, ça permet
tu
peut-être plus
bien sûr.
À s'autoriser soi-même. J'ai la sensation, enfin, je sais pas si toi t'as cette même expérience, mais que ça commence à arriver quand même.
Bien sûr. Quand t'as reçu Odile Chabriac, elle t'en parlait. Et, là, tu parles des femmes qui initient cette chose. Là. Et effectivement, comment dire, je sais pas si c'est. Enfin, il aurait été prouvé, voilà, je vais le dire comme ça parce que je l'ai pas vérifié. Ça se vérifie dans mon expérience, mais pas nécessairement au niveau de l'espèce femme, on va dire ça comme ça. Que tout au long du cycle, en fait, il y a des moments où la psyché elle s'ouvre pour les femmes. Avant les règles, l'activité cérébrale est beaucoup plus proche de l'inconscient et des rêves. Et donc, on aurait un accès très, très, très fort pendant cette ouverture de porte à notre intuition et à notre côté plus sombre, plus agressif, plus fou que les hommes. Et c'est vrai que, du coup, on est dans une représentation du temps qui est beaucoup plus cyclique et qui, on va avoir des phases plus up et des phases plus down, mais ça fait partie d'une expérience totale, quoi, et complète. Pour les hommes, en fait, vous n'avez pas assez accès à ça.
Un peu bêta, les mecs.
Et donc, votre travail pour aller invoquer ça, il est plus fort. Encore une fois, l'initiative, elle doit être encore plus forte parce que nous, en fait, on y a accès, quoi. Par contre, ça a été coupé. Ça a été coupé. On nous a empêchés d'aller là-dedans. Et là, maintenant, avec les différents mouvements féministes, parce qu'il y a plein de... Et d'ailleurs, souvent, ces femmes se réclament pas du tout du féminisme. Il y a un mouvement de femmes connectées à cette partie très sombre, très animale, l'autre l'autre qu'on ne présente pas.
Danser avec les loups.
Voilà.
Tu veux faire référence au bouquin.
Ouais. Ou, Danser avec les loups, c'est le film.
Ah oui, pardon.
Et
oui,
Femme qui court avec les loups.
Oui, pardon, je me trompe en plus.
Sur les archétypes de la femme sauvage, que je vous conseille vivement de lire. Voilà, c'est tous les archétypes qu'on a en nous et avec lesquels on est né, quoi. Donc, j'espère en tout cas, moi, quand je travaille sur mes différents réseaux sociaux et sur mon blog ou à travers mes films, que ça autorise d'autres, qui soient femmes ou hommes, ou two spirits, comme ils disent, que ça autorise les gens à aller plus profondément dans leur expérience humaine. Ouais.
Du coup, je pense que tu participes quelque part à cette ouverture vers les ombres de chacun.
Ouais, ouais.
Mais nous, on a pas mal expérimenté ensemble,
ouais.
Comme tout le monde aura compris,
ouais.
Je crois. Mais...
Ouais. Disons que moi, je suis pas dans... Je vais bientôt l'être, mais pour l'instant, j'étais pas dans une intention d'avoir une quelconque répercussion sur autrui. Moi, j'avais besoin de cheminer et de le faire publiquement parce que pour moi, ça faisait partie de mon chemin d'avoir une voix. Mmh. Parce que j'en ai pas eu et que ça faisait partie de mon cheminement. Et c'était une manière... Moi, je suis quelqu'un de très mental. Et donc, si je dépose pas mes mots quelque part, mes images quelque part, en fait, ça continue de tourner. Et en fait, ça me lave, moi. Donc, dès que je dépose un post, ça me lave, je peux partir ailleurs et créer autre chose. Donc, pour moi, c'était vraiment un truc d'hygiène, en fait, une hygiène de vie, de faire ça. Il se trouve que en faisant ça, ça a des répercussions sur les personnes qui me lisent, ça les fait cheminer. Tu vois, on parlait de l'ayahuasca et de la madré, mais on parle aussi de femmes comme moi, finalement, qu'on appelle des comadrées ou des surrogate mothers. Et il semblerait qu'il y a beaucoup de femmes et de jeunes femmes pour qui je peux représenter ça. Mais après, c'est leur projection, ça leur appartient. Moi, je ne suis pas dans ce désir-là. Mais en tout cas, oui, si, je pense que s'il y a quelque chose de vrai qui est partagé, que ce soit en mots ou en couleurs, ça résonne quelque part.
Cool. Bon, alors je confirme, ce n'est pas exactement le même épisode qu'avec Jerry. Donc si vous parlez bien anglais, vous pouvez écouter l'épisode que je publie en même temps avec Jerry.
Oui, c'est vrai, ça a un peu évolué.
Non, ça a un peu évolué.
Ce qui est vrai, je vais revenir sur l'épisode et sur son bouquin. Moi, c'est du coup autant profiter de cette occasion. Il a écrit ce bouquin l'année où on s'est rencontrés. Mmh. Et donc, je l'ai vu écrire. Et en fait, mois après mois, il va explorer un système moral et il va faire son panier. Et du coup, il invite les gens à faire leur propre panier. Donc, ce soit les sept péchés capitaux, les dix commandements, le satanisme. Mmh. Et il va, en fait, vous inviter à réfléchir sur quel serait votre propre code moral et à construire votre propre code moral. Et je me rappelle que, en même temps qu'il le faisait, il explorait ce monde du péché. Et en septembre, il était malade. Ça le rendait malade. Physiquement, et donc il y a eu un moment donné où il a fallu qu'il ramène de l'espoir dans cette expérience pour lui-même et pour les autres, et au lieu de continuer à sombrer, il s'est dit quelles sont les solutions qu'on peut apporter. Mmh. Et son bouquin s'appelle donc The Book of Sin, How to Save the World. Mmh. Donc, il a utilisé une phrase un peu grandiloquente comme ça, comment sauver le monde. Et en fait, moi, c'est aussi l'expérience personnelle que j'ai faite. Pour sauver le monde, il faut d'abord commencer par sauver son propre monde. Mmh. Et si tous, on sauve notre propre monde, qu'on va notamment investir ce dark side et qu'on arrête de le projeter sur autrui, on va créer un monde plus riche, plus sain, plus safe, quoi. Donc... Donc moi, ça a marché sur moi, ouais.
Ouais, ça marche sur moi aussi, je crois. Je suis pas sûr, mais bon.
Ouais. Mais ça donne beaucoup de courage, en fait, de savoir qui on est.
Ça travaille en cours.
Mais... Ouais, de toute façon, ongoing jusqu'à la fin.
Exactement. Et alors, ce podcast s'appelle Blanc, je voudrais savoir à quoi tu veux claquer ou ouvrir la porte.
Du coup, je vais rejoindre Jerry et je pense que c'est ce que je t'avais dit aussi la première fois, c'est ouverture de porte, ouvrez toutes les portes, ouvrait toutes les portes. L'idée, c'est d'explorer votre vie, quoi. Donc, à partir du moment où on se met dans une idée d'exploration, ah bah tiens, qui suis-je si je suis comme ça? Qui suis-je si j'explore ça, etc. Ah, la vie, elle devient mais hyper savoureuse. C'est pas toujours simple, j'avoue. Parfois, t'es à genoux, t'es là, oh, ça fait mal. mais c'est génial, c'est vraiment génial. Donc, ouverture de porte, vlan.
Parfait. Merci beaucoup, Maï.
Merci à toi, Greg.
Cool. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.